Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour François Dulster.
Antoine Dulster, bonjour Antoine. Jacques Meunier.
Bonjour. Et au sommaire aujourd'hui, médias et politiques aux États-Unis.
Eh oui, tout à fait Jacques Meunier, nous sommes en compagnie de Françoise Coste qui est historienne et professeure de civilisation américaine à l'université de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Alors c'est devenu une habitude hein, depuis son élection il y a près de 2 ans. Donald Trump s'est de nouveau répandu en insultes contre les médias ces derniers jours. Des médias accusés de colporter à son sujet de fausses nouvelles, accusés aussi d'être des ennemis du peuple américain. Ces insultes arrivent dans un contexte de violence politique assez inédit aux États-Unis à quelques jours des élections de mi-mandat. 11 morts dans un attentat antisémite d'extrême droite à Pittsburgh la semaine dernière. Plusieurs colis piégés envoyés à des figures démocrates par un militant républicain. Le président américain n'en démord pas. Les médias seraient responsables de ce climat de violence. Pas tous les médias, ceci dit, mais ceux qui diffusent, selon lui, de fausses nouvelles. Comprendre donc CNN et la presse généraliste. Alors, on va se demander ce matin en quoi ces jugements sur la presse et les journalistes s'inscrivent dans une histoire longue aux États-Unis, ou pour le dire autrement, comment la bataille politique américaine se joue peut-être d'abord dans l'opinion et donc dans les médias. Alors, Françoise Coste, ces attaques de Trump contre les journalistes, j'imagine qu'elles ne vous surprennent pas. On aurait tout de même pu s'attendre à un changement de registre dans cette période de violence. Donald Trump avait même, de fait, lancé un appel à l'unité après l'affaire des colis piégés. Alors, est-ce qu'il se contredit avec ses critiques de la presse, Françoise Coste ?
Je pense que quand Trump appelle à l'unité, exprime son horreur de ce qui s'est passé la semaine dernière, on sent bien l'influence de ses conseillers qui lui disent « Le président des États-Unis doit être le garant de l'unité nationale, voilà ce que vous devez dire », on sent qu'on est préparé une fiche. Mais ensuite, le naturel revient au galop, et dès que le naturel revient au galop, on sent bien que profondément, Trump est animé par cette haine des médias, et quand il dit que c'est les médias qui sont responsables de ce climat, Le lendemain ou deux jours après l'envoi d'un colis piégé à CNN, il est en train quelque part de dire que les victimes l'ont bien cherché, ce qui est vraiment irresponsable par rapport dans la position qui est la sienne. Mais on sent bien que, en fait, il n'habite pas la fonction de manière traditionnelle et que c'est une campagne permanente. C'est sur ça qu'il a été élu et c'est comme ça qu'il gouverne et on ne le changera pas.
Alors, politiquement, ces attaques contre les médias un peu à bras raccourcis, c'est efficace et mobilisateur auprès de sa base électorale ?
Oui. Parce que ça s'inscrit, comme vous le disiez il y a quelques minutes, dans un temps très long de l'histoire de la droite américaine. La droite américaine, le mouvement conservateur américain, a longtemps, et enfin, quasiment depuis la deuxième moitié du XXe siècle, disons, s'est toujours senti mal représenté par les médias traditionnels, les médias nationaux, les médias dits « mainstream ». C'est-à-dire que le New York Post, le New York Times, le Washington Post, Time Magazine, Newsweek, les grands networks, CBS, ABC, ce type de médias, qui eux, je dirais, objectifs, ont toujours été attaqués par la droite américaine comme étant finalement trop à gauche, trop proche des démocrates. Et il y a eu un très, très patient et long travail fait par la droite américaine pour, depuis les années 50-60, construire sa propre infrastructure médiatique, plus ou moins discrètement, mais avec beaucoup de succès, en commençant par des magazines comme la National Review dans les années 50, qui voulait se faire la concurrente de Time et de Newsweek. Ensuite, dans les années 80-90, il y a eu le tournant crucial de la talk radio, quand la bande FM américaine a été dérégularisée dans les années 80. Ça a été une aubaine pour des commentateurs, des observateurs de droite, pour lancer des talk shows du type Rush Limbaugh, qui ont aujourd'hui des dizaines de millions d'auditeurs. Et puis, bien entendu, dans les années 90, il y a eu la création, une fois avec sur le câble, de Fox News. Et Fox News, c'est vraiment là le média conservateur qui tire toute cette nébuleuse médiatique de droite vers le haut, vers
Alors,
le succès.
Je vous fais réagir à ce que vous venez de dire, justement, Françoise Coste. Donc, sur cette longue histoire, hein, vous êtes, vous, une spécialiste de Ronald Reagan. Ça veut dire, en réalité, que donc cette réaction du camp conservateur à partir des années 50, c'est-à-dire que quand la révolution conservatrice s'opère avec l'élection de Ronald Reagan en 1980, c'est-à-dire que le paysage, en fait, est déjà prêt. Les républicains avaient déjà admis, effectivement, une espèce de fait de minorité, peut-être dans la presse traditionnelle. Oui. Ils avaient commencé à s'organiser et à organiser un circuit de l'information qui sortait de ce circuit traditionnel. C'est bien ça ?
C'est ça. Et c'est grâce à ce type de circuit que un homme comme Ronald Reagan, qui n'est pas du tout du sérail, arrive en fait à se faire élire à la présidence. Mais le paradoxe avec Reagan, c'est qu'une fois qu'il est élu, quand il est élu en 80, il est élu clairement contre la presse. La presse mainstream ne le prend pas au sérieux, justement parce que c'est un ancien acteur, on juge qu'il n'a pas assez d'expérience. Bon, il est élu contre la presse. Mais ensuite, il est devenu tellement, tellement populaire que la presse américaine mainstream, dans les années 80, finalement, va le traiter avec des pincettes. Parce qu'il a l'opinion publique derrière lui, et les journalistes américains racontent bien que quand ils étaient trop critiques avec lui, ils recevaient des tonnes de courriers des lecteurs pour se plaindre de leur hostilité contre le président. Ce n'est pas du tout le cas sous Trump, où là, en fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a une presse mainstream, est-ce qu'il reste une presse mainstream quand on voit que des voix comme CNN ou le New York Times sont de plus en plus ouvertement négatifs envers le président. Et un signe qui ne trompe pas, c'est que par exemple sous Reagan, jamais la presse n'utiliserait le mot mensonge pour parler de déclaration du président qui serait fausse.
D'accord.
Alors,
je voulais justement vous faire parler de Donald Trump et de la continuité avec cette longue histoire, justement. Alors, si on vient un peu à aujourd'hui, cette distinction que Trump établit entre ce qu'il nomme les fake news immédiats et les autres, si on reste vraiment dans l'actualité d'aujourd'hui, à quoi cela renvoie dans le paysage politique américain, dans le paysage médiatique, pardon, américain? Donc, il y aurait d'un côté des médias mainstream dont vous venez de parler, hein, le Washington Post, le New York Times, CNN, et de l'autre, donc, quoi, des médias d'opinion engagés surtout à droite, vous l'avez dit, comme Fox News. Comment les Américains s'informent aujourd'hui?
Alors, pour la définition de Trump, quand il parle de fake news ou fake news media, il veut dire les médias qui le critiquent. Les médias qui le critiquent sont des fake news media. Donc c'est une définition très subjective. Mais vous avez raison. Le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est la polarisation. La polarisation extrême où on a quasiment plus de milieu, plus de centre dans le spectre politique. Et ceux qui participent de ça, c'est que les Américains font leur shopping médiatique en fonction de l'engagement idéologique de la source médiatique. C'est-à-dire que si on est vraiment très conservateur, on ne va regarder que Fox News. On ne va aller sur Internet que les sites de la alt-right. On va écouter les émissions dans sa voiture le matin pour aller au travail. On va écouter les émissions de Rush Limbaugh ou Alex Jones à la radio. Et idem à gauche, alors moins caricatural, mais il y a quand même de plus en plus d'Américains très à gauche qui ne vont, par exemple, à la radio regarder plus que MSNBC, qui est un peu le penchant démocrate de Fox News, toute proportion gardée, hein, ou des démocrates qui vont regarder seulement des sites internet clairement engagés. Donc c'est un peu la mort lente des médias.
Alors, donc,
objectif, c'est tenter que ça ait jamais existé.
Ça existait, mais alors, c'est un paysage médiatique très morcelé que vous décrivez, hein, François Scott. Alors, quelles conséquences pour le statut, justement, de la vérité journalistique? Puisque ce débat autour de l'expression fake news que se renvoient Trump et les journalistes, il fait penser aussi, hein, si on revient à janvier 2017, à ce que la conseillère de Donald Trump, Kellyanne Conway, avait évoqué, hein, donc, des faits alternatifs, hein, donc c'était à propos de ce que Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche, avait déclaré sur la cérémonie d'investiture qui n'avait jamais eu autant de monde. Donc il y aurait des faits et des faits alternatifs. C'est ça aujourd'hui le statut de la vérité journalistique aux États-Unis?
C'est dramatique, mais les Américains vivent dans deux bulles distinctes qui ne se recoupent pratiquement plus, chacun ayant effectivement sa propre réalité, ses propres statistiques, ses propres valeurs, ses propres faits scientifiques aussi, si on regarde des questions comme le réchauffement climatique. Et c'est une division. Alors, je vais être un peu dramatique là, mais de plus en plus d'Américains se demandent s'ils ne sont pas en train de vivre une guerre civile froide. Alors, il n'y a pas de combat dans la rue, on n'est pas au 19e siècle, au moment de la guerre de sécession, mais quand même, la population semble scinder en deux camps qui ne se parlent plus, qui ne sont plus réconciliables, qui n'ont quasiment plus aucune valeur en commun, et c'est ce socle civique qui semble s'effondrer. Et tout ce paysage médiatique dont on parle est une manifestation de de cet effritement civique aux États-Unis.
Alors, je voudrais vous faire commenter un chiffre issu d'une étude, a priori sérieuse, de l'Institut Gallup, qui a été publiée il y a quelques semaines, sur la confiance de la population américaine dans ses médias. Donc, le chiffre global qui ressort de cette étude, c'est que 45% de la population aurait confiance dans les médias de masse. Donc, c'est peu, mais c'est, il faut le signaler, en augmentation par rapport aux chiffres les plus bas qui avaient été obtenus dans cette étude il y a 2 ans, c'était 32%. Et donc, c'est un chiffre, en tout cas, qui a relativisé selon les sensibilités politiques, puisque cette confiance envers les médias, c'est 76% chez les démocrates et 21% seulement chez les républicains. Ça rejoint ce que vous dites, François Scott, sur le morcellement de l'opinion et du paysage médiatique qui correspond. Comment analysez-vous ces chiffres, François Scott ?
Ce 21% des sympathisants républicains, il est très révélateur parce qu'il montre bien que, on va dire, la base de Trump, la base du Parti républicain, se vit comme une minorité persécutée aux États-Unis. Il y a vraiment, dans le fil rouge des années Trump, c'est ça. C'est personne ne parle pour nous, personne ne nous défend, nous étant en fait, en réalité, la majorité de la population des États-Unis, la majorité blanche, mais cette majorité numérique ne se retrouve plus dans le Parti démocrate, ça c'est sûr, ni chez Barack Obama, ni chez Hillary Clinton, et donc plus du tout dans les médias non plus. Et c'est cette paranoïa, cette peur de perdre le pouvoir, une peur quasi ontologique de quel va être le segment de la population qui va avoir le pouvoir aux États-Unis. Et c'est cette peur que Trump exploite magnifiquement. Le problème, c'est que lui, il exploite électoralement, avec ses mots, sa rhétorique. Et ce que montre la semaine dernière, c'est que on voit bien que les mots peuvent avoir un impact très concret quand il pousse des fans de Trump à passer à l'action. Et c'est ce basculement des mots vers l'action et vers la violence qui peut interloquer et nous inquiéter sur la santé, l'état de santé de la démocratie américaine.
Alors, on ne peut pas évidemment faire cette émission sans dire un mot sur donc les acteurs de cette offensive idéologique de la droite dure aux États-Unis ou de l'extrême droite. Alors, on parle beaucoup, vous parlez de Fox News tout à l'heure, mais si on va vraiment plus à droite, on parle beaucoup de Breitbart News, donc le site qui est associé au nom de son ancien directeur, Steve Bannon, qui a aussi dirigé la campagne de Trump. Donc, il y a aussi beaucoup d'autres sites qu'on pourrait citer de la même mouvance. Ce sont des sites qui sont influents dans la vie politique américaine.
En réalité, non. C'est très peu d'Américains vont lire Breitbart News, par exemple, parce que c'est des sites de niche, on pourrait dire. Ce qui leur donne de l'influence, c'est que ils sont lus à l'évidence par Trump. Et Trump va régulièrement tweeter ou retweeter des idées, des théories du complot, par exemple, qui viennent de ces sites. Et une fois que Trump les retweet, bien entendu, la presse normale, la presse mainstream, en parle pour expliquer à ses lecteurs ou à ses auditeurs d'où cette théorie du complot vient. C'est donc Trump qui leur donne une caisse de résonance que ce type de site n'avait pas jusqu'à aujourd'hui.
Eh bien, merci beaucoup, François Scott, pour tous ces éclaircissements dont on parlera justement sur notre antenne, sur la bataille politique dans les médias aux États-Unis. Et je vous rappelle que vous êtes professeur de civilisation américaine à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Et on vous doit également une biographie de Ronald Reagan qui a été publiée chez Perrin en 2015.